France Inter. Le 7-9.
7h48, Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin, est le PDG de Vipi.
Bonjour Jacques-Antoine Grandjean.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes un pionnier du numérique français. En 2001, vous avez fondé votre site. Alors aujourd'hui, ça s'appelle Vipi, mais à l'époque, ça s'est longtemps appelé vente privée. Les Français, en 2001, ils étaient loin d'acheter, comme aujourd'hui, de la mode, des meubles, des objets sur Internet. Est-ce que c'est dans ces 20 années, est-ce que c'est la pandémie, les confinements qui ont été le grand point de bascule ?
Non, pour nous, le grand point de bascule chez Vente Privée, c'est 2004, c'est l'arrivée de l'ADSL, où Vente Privée a pu proposer aux femmes, essentiellement, qui se retrouvaient chez elles, qu'elles travaillent ou pas, devant un écran qui est devenu au centre du salon, avec une connexion rapide, l'ADSL, des produits de marque, avec une décote dans un univers créatif. C'est vraiment 2004 chez nous.
Donc le confinement, ça a fait quoi ? Ça a quand même accéléré ? C'est juste un événement ?
Alors, pour Vipi, le confinement, c'est bien évidemment la distribution pour les marques qui est interrompue, donc ils n'ont plus de moyens de vendre leurs produits et beaucoup de marques sont passées par Vipi pour vendre leurs produits. Au même moment, chez nous faisions 400 millions dans le voyage, on est passé à zéro, 100 millions dans l'entertainment, on est passé à zéro. Et aujourd'hui, et vous le voyez dans l'économie, aujourd'hui c'est le contre-coup pour Vipi du lockdown, puisque...
Du lockdown, c'est le confinement, oui.
Puisque matière première qui augmente, des problèmes d'énergie en Chine, des usines qui fabriquent moins, des marques qui se sont affaiblies et qui font attention à leur production. Donc certainement moins de stock pour nous dans l'année qui vient.
Parce que c'est ça votre modèle en effet. Vous êtes un soldeur, Jacques-Antoine Grandjean. Vous vendez les stocks des marques. Alors, est-ce qu'elles sont en train de changer de stratégie? Vous commencez à l'aborder là. Est-ce que, peut-être par crainte d'un nouveau virus ou bien peut-être par souci de l'environnement, certaines se préparent à produire moins loin, plus en Chine, ou bien carrément à produire moins?
Exactement. Je pense que de toute manière, c'est un sujet qui existe depuis longtemps chez les marques. Hein. C'est comment produire moins loin. Aujourd'hui, vous avez vu, le prix des containers a été multiplié par 6 ou 7 quand on vient de Chine. Elles vont essayer de relocaliser. Est-ce que ça sera en Turquie, en Afrique du Nord, etc. Elles vont le faire avec
vous
des coûts certainement.
Déjà
oui, bien sûr, des marques le font. Alors, elles rêvent toutes de relocaliser en France et ça serait très bien. La différence, c'est que quand un consommateur rentre dans un magasin pour acheter un produit, c'est ce que j'appelle un petit miracle. Finalement, il est dans le magasin d'une marque et s'il est là pour un produit bien précis, il faut que le produit soit là. Donc moi, ça fait 36 ans que je fais ce métier, et 20 ans avec Vipi en digital. Il y a toujours eu des stocks depuis 36 ans et toujours plus. Donc c'est vrai que est-ce que en ce moment, c'est un sujet conjoncturel ou un sujet structurel de la diminution des stocks des marques? On le saura dans un an et demi.
Bon, vous le saurez dans un an et demi, mais quand même, vous êtes en train d'adapter votre modèle, hein, si j'ai bien compris. Vous vous lancez dans le marché de l'occasion. C'est Vinted qui a secoué sans doute tout le secteur, hein, Vinted qui fait de la fripe sur Internet. Est-ce que vous pensez que le marché de la seconde main, un jour, ça va être le réflexe des consommateurs avant le neuf ? On ira acheter des voitures d'occasion, des vêtements d'occasion, peut-être plus encore d'occasion.
Je pense qu'il ne faut pas en faire un extrême, parce que s'il n'y a plus que de l'occasion, il n'y a plus de neuf, et à ce moment-là, l'occasion disparaît parce que devient de la fripe qu'on ne peut plus porter. Je pense que la force de Vipi, c'est un site sur lequel 4 à 5 millions de personnes viennent tous les jours, tous les matins. Donc c'est vrai, jusqu'à présent, nous leur vendions les stocks qui étaient dans les entrepôts des marques. Ensuite, nous avons vendu les stocks qui étaient dans les magasins des marques. On a un service qui s'appelle InShop. Et enfin, maintenant, on va leur proposer les produits qui sont dans les armoires de nos membres et que nous récupérons avec des ventes inversées sur lesquelles nous donnons des coupons pour que les gens aillent acheter éventuellement des produits dans les boutiques des marques. Et ces produits sont lavés, récupérés, lavés, repassés, re-shootés,
remis. Mais c'est bien parce que vous y croyez, c'est bien parce que vous voyez que les consommateurs, et je pense aux jeunes particulièrement, mais peut-être pas seulement, finalement se tournent beaucoup vers l'occasion. Le neuf n'est plus leur priorité.
Le neuf n'est plus la priorité, mais de toute manière, une entreprise aujourd'hui doit penser à la façon dont elle a son empreinte carbone sur cette petite planète. Vous savez, on est toujours dans cette double injonction contradictoire. Hein. L'injonction contradictoire, c'est il faut faire de la croissance, il faut créer des emplois, et attention, il y a une planète qu'il faut protéger, parce qu'à partir de juillet, on a épuisé ses ressources. Donc, les entreprises s'y penchent elles-mêmes sur ces sujets-là. Je vends du voyage. À moins d'arrêter le voyage, il faut planter les arbres. Donc on a un sujet. Là, on n'a pas le choix. On a des ordinateurs.
Des
Sinon, on ne peut pas continuer à vendre du voyage sans avoir une empreinte carbone très forte. Donc oui, il faut replanter pour compenser. Ensuite, on a une empreinte énergétique puisqu'on a énormément de serveurs. Donc là, utiliser l'énergie verte, c'est mis en place chez VP. Ensuite, notre empreinte, elle est sur les transports entre les marques et nous, entre nous et nos membres, et entre les membres, éventuellement entre eux quand on fait du member to member, ou du C2C, etc. Là, on travaille pour faire en sorte qu'il y ait le moins de transport possible. Et donc, on a inventé un service qui s'appelle Return. Vous, au lieu de renvoyer les produits chez la marque, vous voulez en changer entre membres. Et Recycle fait partie de cette activité RSE, c'est-à-dire qui permet d'avoir une empreinte carbone qui diminue.
L'environnement, c'est où dans votre ordre de priorité à vous ? Vous êtes un grand patron. Vous avez 5500 employés. Je ne sais pas combien vous avez d'entrepôts
en France. Oui, c'est 300 000 mètres carrés d'entrepôts, voilà. 5500 à 6000 personnes.
C'est quelle priorité pour vous, l'environnement ?
Je pense que l'écologie est au centre de tout, c'est pas politique. Mmh. Je pense que c'est une façon d'être, une façon de penser, une façon de mettre en place des actions qui nous permettent de protéger notre petite planète.
Bon, on va parler de politique un petit peu avec un grand patron de l'espace économique français. La campagne pour les présidentielles a démarré. À quoi le chef d'entreprise et citoyen Grandjean va faire attention ?
Je pense que ce qui a été mis en place depuis 2 ans sont des solutions extrêmement court-termistes qui ont permis de pas faire sombrer les entreprises. Et je dis chapeau, il y a eu des choses qui ont été très bien faites. Le quoi qu'il en coûte. Et je pense que le nouveau plan 2030, on revient dans un temps long. Et le temps long, c'est le temps dans lequel, finalement, c'est un temps politique, c'est le temps de la structure, c'est le temps de la vision, c'est le temps de dire c'est quoi la France au sein du monde, c'est quoi la France au sein de l'Europe, c'est quoi l'Europe au sein du monde. Moi, j'adore mon pays, j'adore la France, mais je pense que la France sans l'Europe, ça va être compliqué face à des blocs très très puissants, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Afrique, que ce soit les États-Unis.
Et donc, vous croyez au plan d'investissement France 2030 qu'a annoncé Emmanuel Macron avec 30 milliards à la clé ?
Il y a beaucoup de plans, je ne sais pas si je crois au plan. Ce que je crois, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir une vision structurelle de notre industrie, de la relocalisation, comme on en a parlé tout à l'heure, de la vision sur quelle va être la tech en France, la vision de vous avez OVH qui rentre et qui va s'occuper du cloud, qui vont être les grands leaders du cloud en Europe, cette indépendance digitale qui est nécessaire.
Alors, après, et on en est où plan... la Startup Nation alors ? Est-ce que il y avait cette promesse en 2017, est-ce qu'elle a tenu ses promesses, la Startup Nation ?
Nous sommes dans un pays dans lequel la formation est accessible à tous, l'éducation. Donc ça, c'est le début finalement, c'est créer des gens qui soient formés. Ensuite, il y a des entrepreneurs qui ont des idées, des ambitions, des désirs, des façons de vouloir certains changer le monde ou pas. Alan, dans l'assurance, il y a plein d'ambitions. Et ensuite, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on donne les moyens financiers. La BPI a joué son rôle et aujourd'hui, des fonds américains viennent donner, ou français, ou européens, viennent donner des moyens à ces entreprises pour aller plus loin que leur démarrage où elles ont besoin d'argent. Donc voilà, c'est ça la Startup Nation. Maintenant, on va voir les résultats concrets d'ici quelques années, oui.
Il y a la Startup Nation et puis il y a la France de ceux qui trouvent que le travail ne paie pas suffisamment pour bien vivre. À gauche comme à droite, vous l'avez entendu, Jacques-Antoine Grandjean, les candidats veulent augmenter les salaires. Que leur dites-vous ?
On va avoir une pression sur les salaires, c'est normal. Il y a une inflation qui est en train de. On ne sait pas si elle est conjoncturelle ou structurelle. Je suis pas économiste. Hein. Moi, je suis plutôt microéconomiste. Hein. J'aime bien le côté de ce qui se passe près de chez nous. Nous, l'association de VP, c'est dans le 93, autour de nous. Vous voyez,
On va avoir une pression, ça veut dire quoi ? Nous, patrons, on va être obligés d'augmenter ?
Oui, certainement, bien évidemment. Les négociations des salaires en janvier seront beaucoup plus tendues que chaque année. Bon, chez VP, on tourne en permanence autour de 2 à 3% d'augmentation de salaire. Je pense que les demandes sont plus importantes. Après, chaque industrie va avoir ses propres difficultés. Nous, je viens de vous le dire, hein, on va être pris en ciseaux avec l'augmentation du coût des marchandises fabriquées en Chine, l'augmentation du coût de transport, la raréfaction des stocks. Donc moi, dans mon rôle de protéger les 5500 salariés de VP, oui, bien sûr, augmentation de salaire, mais de l'autre côté, attention au coup de ciseaux qu'on peut se prendre en 2022 sur notre activité, même si le voyage va démarrer, etc.
vous croyez au redémarrage du voyage. Le PDG de Vipi, Jacques-Antoine Grangeon, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci à tous les deux, merci Alexandra, à tout à l'heure.
France Inter.